Radio Libertaire 89,4 MHz, il est 15h31, à moins qu'on ne puisse dire elle est 15h31, ou on est 15, voilà, on va dire on est 15h31, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, quelques petits, je me souviens pour commencer. Je me souviens de l'expression au niveau du vécu qui a fait florès dans les conversations. Je me souviens de un pou, une puce sur un tabouret, jouer ta manille au jeu de piquet. Je ne me souviens pas d'avoir vu le moindre pigeon, jeune, évoluant sur les trottoirs parisiens. À quel âge sortent-ils du nid, ces cons ? Je me souviens que Thierry adorait se rouler par terre sur les pentes des buttes Chaumont, surtout quand l'herbe venait d'être coupée, pour l'odeur qui l'enveloppait et pour les petits brins qui se collaient dans ses cheveux. Je me souviens que Christian disait « Tu vois mon billet de 10 euros, c'est mon petit bulletin de vote à moi. Le bout de papier dans l'isoloir, il sert à rien. » Alors qu'avec mon billet de 10, eh ben, je peux décider d'acheter des légumes au marché, circuit court, producteur que je connais, agriculture pas trop polluante, ou alors, je peux acheter des légumes importés d'on ne sait où, ayant voyagé en avion et produits dans des serres au bout desquelles logent les ouvriers qui les cultivent. Je me souviens que quand Fred ou Yanis disaient « j'ai tout vécu », ils ne parlaient pas de la même chose. Pour l'un, avoir tout vécu, c'était être allé dans 17 pays, avoir côtoyé des artistes, des actrices, des grands cuisiniers, avoir bu du champagne sur un bateau mouche privatisé pour une soirée, avoir vu le soleil se coucher sur un atoll. Pour l'autre, avoir tout vécu, c'était avoir été expulsé une fois, avoir dormi dans sa voiture, avoir fait 3 séjours en garde à vue pour vol à l'étalage et avoir pété la cloison nasale au mec qui voulait baiser sa sœur avec 3 potes. Je me souviens qu'avec Didier... Avec Didier, on était tous les deux amoureux de la fille du train de 7h12. Elle prenait le même train que nous, à 7h12, arrivée à Saint-Lazare 7h46. Avec Didier, on était tous les deux amoureux de la jeune étudiante du train de 7h12. Ouais, on avait compris, Didier et moi, qu'elle était étudiante car elle avait l'air d'avoir à peu près notre âge et restait dans ses pensées. Avec Didier, on était amoureux tous les deux de la jeune étudiante en histoire du train de 7h12. Ouais, on avait compris qu'elle était étudiante en histoire parce qu'elle était plongée dans des livres à l'aspect austère, aux couvertures moyenâgeuses, et puis elle nous voyait pas. Nous, on lisait de la physique et des maths. Avec Didier, on était tous les deux amoureux de la jeune polonaise étudiante en histoire du train de 7h12. Ouais. On avait compris qu'elle était d'origine polonaise parce qu'elle était blonde, elle parlait à personne, et quand Didier l'avait entendu une fois s'adresser au contrôleur, elle avait une pointe d'accent qui nous rappelait Olga de l'amphi de calcul différentiel. Avec Didier, on était tous les deux amoureux de la jeune polonaise étudiante en histoire réfugiée en France du train de 7h12. Ah ouais. On avait compris qu'elle était réfugiée parce que on lisait les journaux, on écoutait la radio, on nous parlait de Jaruzelski et tout, et puis elle lisait parfois les pages internationales de Libé, c'est Didier qui avait remarqué ça. Avec Didier, on était tous les deux amoureux de la jeune étudiante en histoire, polonaise, du train de 7h12, réfugiée en France, qui aimait les étudiants en sciences un peu timides, mais politiquement engagés. On l'avait compris parce qu'un mardi matin, on l'avait vu prendre un tract distribué par des gars de Nanterre à la gare Saint-Lazare. Avec Didier, on était tous les deux amoureux de la jeune étudiante polonaise en histoire, réfugiée en France, qui aimait les étudiants en sciences un peu timides, mais politiquement engagés et aux yeux verts. Oui, parce qu'on l'avait compris parce qu'un lundi, dans le train de 7h12, elle nous avait souri. En tout cas, elle avait souri à l'un d'entre nous deux. Fallait savoir lequel. Puis Didier et moi, on a croisé un lundi la jeune étudiante polonaise réfugiée et politique aux amours compliqués du train de 7h12. Lui, il l'a croisée au bureau des affaires sociales à la mairie, où elle travaillait en fait comme secrétaire. Et puis moi, je l'ai croisée à la sortie de l'école maternelle, où elle était arrivée exactement à la même heure que son mari pour rechercher son fils. Des fois, on imaginait de ces trucs avec Didier, putain. Et le mardi suivant, on est tombés tous les deux amoureux d'Angela, une jeune fille brue qui prenait le train de 7h12 et descendait à Argenteuil. Je me souviens de l'expression... Ah oui, ça je vous l'ai déjà dit. Pardonnez-moi, je tiens le map. Je me souviens qu'Antonio m'avait dit que dans le village de son enfance, noyé sous les eaux suite à la construction d'un barrage, la fontaine sur la place du village continuait à sourdre inlassablement par son bec en plomb par 20 mètres de fond. Je me souviens que Vaquette m'avait dit « Tu vois l'avantage du passage à l'euro et de la division par 6,57 ? C'est qu'il y aura moins de millionnaires. » Il avait ajouté « Mais des milliardaires, il y en aura toujours autant. » Je me souviens de la jeunesse en merde, le Front National. Je me souviens que ce soir, un photon venu de l'espace lointain, parti quand mon père était né, ayant traversé quelques millions de milliards de kilomètres, viendra frapper ma rétine, un photon parfaitement à côté d'autres photons, dont certains se perdront d'ailleurs, sans jamais être vus de personne, pas même d'un chat ou d'un scarabée. Je me souviens de Vincent Jarry, avec son chariot empli de plaquettes de poésie et son chapeau informe. Dismen Vélissariou et ses sacs en plastique ou qu'elle déballait sur la table du studio sous le nez de Jean-Marie. De Guy Perrault qui gardait son manteau même en été. De Michel Seul avec ses flûtes. De Tim Laser avec ses bols tibétains et ses autres percussions. D'Alain Minot avec sa moustache drue et son verbe touffu Alain, Alain Minot. De Cassandre et de ses choix de texte. De Jérôme, le premier, sans doute un prof de français en semaine, mais qui ne nous a jamais dit d'où il venait et qui repartit un jour comme ça. De Gilles, le modèle aux Beaux-Arts avec ses souvenirs des artistes à fleur de peau et son inconsolable amour pour son épouse défunte. De Jean-Marie et son air d'être toujours en face du micro mais à côté de lui-même ou même assis bizarrement sur nos genoux. De Jérôme, le second, et de son plaisir de découvrir chaque semaine des textes nouveaux. D'Ariel et de ses grosses bouffées d'émotion quand un texte le submerge et que les mots l'emportent. De Sophie, qui sait faire parfois des textes les plus intimes, sensibles ou sensuels et nous les faire passer comme une plume à la poste. De Michel, qui s'excuse presque de nous entraîner doucement dans l'univers des auteurs de quelques siècles pas si révolus ou d'énigmatiques contemporains. D'Elsa, qui était d'abord venue comme jeune lycéenne accompagnant son père, puis comme auteur accompagnant ses propres œuvres. Eh, on a le droit. D'Evelyne, lyrique, aimant se perdre dans les pages de nouveaux livres et reprendre son souffle dans ses propres textes. Je me souviens que lors d'une soirée, entre amis et même amis d'amis, Lucas m'avait ouvertement dragué, et je m'étais alors posé trois questions. Est-ce que je pouvais tomber amoureux d'un homme ? Est-ce que je pouvais avoir envie de faire l'amour avec un homme ? Ah oui, auditeur, tu attends parce que j'ai dit trois questions. Mais la pire, c'est la troisième. Est-ce que les deux premières questions étaient une seule et même question, ou devais-je les séparer ? Je me souviens de Gabriel Blum, d'Henri de Morand, d'Émile Hauswirth, des noms attrapés le long du long monument aux morts de la guerre de 14, le long du Père Lachaise, Alexis Migaud, Georges Bresson. J'écorche peut-être leurs noms chopés au hasard, mais eux, leur corps fut déchiqueté sur des barbelés, par des obus, par des tirs de mitraillettes. Pour rien, Ambroise Fouriot, Louis Mendel, Raymond Chabaret.
Nous comme des crétins, on avait préparé tout un tas de refrains à la gloire du NFP. On n'a rien vu venir. On est peut-être couillons, mais on savait pas vraiment que pour être à Matignon, fallait faire 7%. C'est sympa de prévenir, ça nous fait pas rire, faut tout réécrire.
Qui aurait cru c'est fou que grâce à Retailleau, Darmanin tout à coup passerait pour un gaucho.
On n'a rien vu venir. Pour pas avoir Le Pen, on avait voté Macron. Mais depuis quelques semaines, on a comme l'impression qu'il n'y a plus besoin de choisir. On se fait offrir la formule plaisir. On a dû refaire toutes nos goguettes pour pouvoir chanter. Aujourd'hui, on a bossé comme des bêtes, jour et nuit. Et c'est pas fini. On se disait le cœur en fête, voici revenu l'OTAN, Léon Blum, mais en fait, ce fut Léon Marchand. On n'a rien vu venir.
On est parti en vacances, les gauchos à nos trousses, et quand on revient, la France, c'est la manif pour tous. Que de bons souvenirs.
Je me sens rajeuni,
j'ai envie de vomir.
On pensait l'abbé Pierre intègre et bon jésuite, puis des femmes témoignèrent, en fait Satan l'habite.
On n'a rien vu venir.
Une pensée c'est normal pour ce pauvre Ciotti,
Il voulait le Front National, le voilà le Front dégarni. Quel est son avenir? Qui va-t-il trahir? On s'attend au pire. On a dû refaire tous nos goguettes pour pouvoir chanter. Aujourd'hui on a bossé comme des bêtes, jour et nuit, et c'est pas fini. Heureusement dans tout ça, y a des choses qui changent pas. Oui, quelle joie, Rachida Dati est toujours là. Ça, on l'a vu venir. Mais on n'est pas serein si Barnier se fait censurer. Ça se trouve, le mois prochain, faudra tout recommencer. À vivant qu'on se tire, jouer chez Vladimir, qu'on puisse plus rien dire.
Radio Libertaire 89,4 MHz, les Goguettes qui seront nos invités au mois de... Ah, j'ai encore oublié de noter ça, mais Ariel m'a envoyé les dates, effectivement, en mars ou en avril le prochain. Si je fais, comme d'habitude, le bilan de ce que j'aperçois autour de la table, finalement, c'est trois paires de lunettes, mais peut-être même quatre, puisque Evelyne a posé les siennes sur la table, trois moustaches, deux barbes, des cheveux gris, des cheveux bien sombre, une crête même, un piercing et des textes sûrement en quantité et des invités qui vont bientôt arriver. Alors Evelyne, je te laisse présenter le sommaire plus précis.
Oui, alors bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Donc aujourd'hui nous attendons le comédien Romain Lagarde pour une pièce que j'ai vue avec Michel Tourte ici présent. N'est-ce pas? Au théâtre des Gémeaux Parisiens, c'est un théâtre qui a repris l'ancien théâtre de Ménilmontant. Il est flambant neuf, avec des superbes fauteuils rouges, et ils ont une belle programmation. Et donc là, ils ont commencé la programmation avec Le Petit Coiffeur, qui est une pièce de Jean-Philippe Daguerre, qui a eu beaucoup de succès, hein. Elle a remporté des Molières avec Monsieur Hoffmann ou je ne sais plus quoi. Et là, on a bien aimé la pièce, hein. Donc on va en parler avec le comédien qui va arriver. Il a un peu de retard, les transports en commun, n'est-ce pas? Et puis j'ai invité, alors là c'est la surprise, viendront-ils, ne viendront-ils pas, la comédienne et les comédiens de Variations Pirandelliennes, pour quatre petites pièces que j'ai vues au Théâtre Poche Montparnasse, qui sont plus ou moins des monologues, mais vraiment qui m'ont beaucoup plu. Voilà. Et donc, je les attends, parce que Pirandello, c'est quand même quelqu'un de très imprévisible. Voilà. Alors peut-être que les comédiens, comédiennes qui l'interprètent, ces pièces, sont aussi imprévisibles, on va voir. Ça, c'est la surprise. Et donc, Fabien va nous interpréter, Fabien Roland, qui commence à devenir un pilier des émissions, va nous interpréter un...
Bonjour à tous. Ouais. Donc, c'est un recueil qu'on m'a offert, donc Evelyne m'a offert. Donc, c'est 100 poèmes pour les amoureux des chats, parce que j'aime beaucoup les chats. Voilà, donc c'est un petit livre, hein, donc First Edition. Et c'est Anne Delalleux, donc chroniqueuse à théâtre pour l'émission, qui a choisi le texte, donc je vais le lire. Donc,
Eh ben, à toi.
Voilà, donc c'est Les Chats, donc de Gustave Le Vavasseur. Donc d'après cette étude d'après nature, les animaux. Ça a été écrit en 1863. Le jeune philosophe et la vieille portière aiment le chat câlin, pudibond et méchant, qui vers le pot tollé, tout en se pourléchant, descend à pas comptés le long de sa gouttière. Les plus doux oreillers lui servent de litière, fourré, poltron, gourmand, grassouillé, pleurnichant. L'animal paresseux fait gros dos en marchant, et pattes de velours pendant sa vie entière. La robuste fermière et le rude fermier aiment aussi leurs chats, troupeaux maigres et farouches, qui courent le long des murs, des souris dans la bouche. Ils aiment leur matou qui descend du grenier pour étrangler les rats qui grouillent dans la grange, et qui, si ces petits sont trop nombreux, les mangent.
Voilà, merci. Alors, tu peux répéter de qui c'est ?
Alors, le poème, oui, alors, donc, c'est Gustave Le Vavasseur. Je ne connais pas du
moi,
tout.
Moi non plus, voilà. Hein. C'est une belle surprise.
Oui, voilà.
Alors, tu m'avais dit, Isabelle Sprung a créé un clip qui est très, très rigolo.
Oui. Chat,
alors, je ne suis pas sûre que ça passe bien à l'écran, bien à la radio, parce que c'est un clip. Mais bon...
C'est une nouvelle chanson qu'elle a faite, en fait. Et puis je trouvais que son style était un peu différent des autres chansons.
Bon, ben, je ne sais pas si Nicolas le trouve.
Le chat, simplement.
Le chat, Isabelle Sprung.
Et j'aime beaucoup, en tout cas, j'aime beaucoup cette nouvelle chanson.
Le chat se love sur mon flanc. Si gracieusement, il s'étend. Il s'est délecté de son lait. Il a chassé le balai. Le chat se lobe, le chat se mire. Le chat s'étire, le chat me lobe. Le chat se lobe, le chat se mire. Le chat s'étire, le chat me lobe. Le chat s'étend sur la page. Lui d'habitude si sage, soudain il crie, il cavale, d'un seul coup il détale. Le chat se love, le chat se mire, le chat s'étire, le chat me love. Le chat se love, le chat se mire, le chat s'étire, le chat me love. Que lui prend-il au petit chat? A-t-il aperçu un rat, une souris, un mulot, ou bien un petit oiseau? Le chat se love, le chat se mire, le chat s'étire, le chat me love. Le chat se love, le chat s'étire, le chat s'étire, le chat me love. Il est parti à la chasse. Se passe distraitement, il ramasse sa proie qu'il jette et rattrape. Le chat se love, le chat se mire, le chat se tire, le chat me love. Le chat se love, le chat se mire, le chat s'étire, le chat me love. Finalement il se délecte, l'avale et la déguste, puis se lèche les babines, s'étend, savoure sa rapine, en savoure sa rapine, et ronronne, et ronronne, et ronronne, et ronronne.
Diable! Que la vie est belle. Offre-lui des présents qui font battre son cœur. Démonte le passé que de rire elle en pleure. Le temps n'a plus de loi. D'ailleurs, plus rien à dire. Étendu près de toi, entends comme elle respire. Elle dépose les armes, fait mine de dormir, délace ta pudeur, embrasse son sourire. Elle souhaite nourrir ton amour du combat. Elle frissonne et soupire et se recroqueville. Bien que te désirant, elle ne te déshabille. Applique ce désir qu'elle nomme la foi. D'accord en désaccord, que vos deux corps s'unissent. Redécouvre en harmonie la note du délice. Dans ton sommeil d'enfant, diable, que la vie est belle. Tu renais de tes cendres, elle replie ses ailes. Donner vie au présent, connaître le passé. Mémoire d'un avenir bientôt dans les musées. Répondez aux questions de l'enfant d'aujourd'hui. Il saura vous aimer quand il aura compris. Merci.
Merci.
Alors, monsieur Roma Lagarde, qui joue, je crois que vous n'avez pas un beau rôle dans la pièce. Hein.
Disons que je ne joue pas.
Bon, on va parler du petit coiffeur, voilà. Le petit coiffeur. Oui, parce que déjà, rien que le titre, le petit coiffeur, ça fait un peu, je ne sais pas moi, ça fait très... c'est presque fin 19e siècle, le petit coiffeur, ça fait vraiment très... Très, très image d'Épinal, un petit
c'est
peu.
Vrai, c'est vrai, hein, un peu.
Il y a un peu de ça.
Il y a un peu de ça.
Ouais. Mais, en fait, mais c'est le style, un peu de. Enfin, c'est pas complètement le style, mais comment dire. Il n'est pas brutal, Jean-Philippe Daguerre, quand il entend dénoncer des faits qui lui tiennent à cœur, j'imagine, qui se sont passés pendant la guerre.
Absolument.
Il n'y va pas brutalement. Il laisse s'installer une atmosphère, il laisse les personnages se dévoiler au fur et à mesure, et c'est après qu'on découvre qu'il y a un drame. Hein,
voilà. Quel drame, et
donc,
quel drame, oui.
Donc Michel Tourte a vu la pièce également. Et ça l'a beaucoup intéressé. Je ne vais pas parler pour toi. Tu vas dire pourquoi ça t'a intéressé. Alors, déjà, peut-être... dire en un mot de quoi il s'agit dans la pièce.
Le petit coiffeur, c'est une famille, Pierre, le petit coiffeur, et dans cette famille, les Giraud, on est coiffeur de père en mère en fils, et ça se situe à la Libération,
45.
C'est vraiment
c'est pile poil, 45, ouais.
Voilà, la Libération, et c'est au moment des exactions, effectivement, des tontes, etc.
C'est l'épuration.
Et l'histoire est partie d'une photo,
Oui, c'est ce que dit Jean-Philippe Daguerre. Ouais,
de la photo de
la tondue. De Robert Dédouaneau qui a fait ça.
Alors, c'est Capa.
C'est
Franck Capra qui a fait la photo. À Chartres, cette femme qui a été tondue, et on voit toute une foule derrière elle avec son enfant, une croix gammée.
Oui, il y a même eu un roman qui a été écrit à propos de cette femme.
Oui, voilà.
Oui. C'est vrai que c'est une photo qui est...
Simone Clouseau.
Qui interpelle, quoi, parce que c'est horrible, quoi, quelque part.
Terrible. C'est terrible.
Oui, c'est ça, c'est affreux, quoi. Et donc, je comprends que Jean-Philippe Daguerre...
En fait, la pièce ne parle pas vraiment de ça, mais elle se situe dans ce contexte-là.
Oui, c'est vrai que ça frappe.
Mais c'est aussi un pansement, je trouve, de l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des exactions, et effectivement, les personnes... Ce jeune coiffeur qui était finalement... qui est bon, qui n'était pas promu à ça, puisque c'est un peintre, lui, ce qu'il veut, c'est peindre, va finir par commettre l'irréparable, poussé par... par l'amant de sa mère, moi-même.
C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'est pas sympathique.
Oui, mais... il va y avoir, à partir de ce drame-là, tout va changer dans la famille. Et surtout l'arrivée d'une jeune fille, maîtresse d'école, un amour naissant entre elle et lui.
Ouais.
Et tout va changer, tout va basculer dans cette famille.
Oui. Donc on va pas tout dévoiler parce que sinon
non, parce que il faut c'est vraiment c'est le
voilà. Parce que si je commence à dire ce qui se passe,
non ça va.
Y a plus de suspense. C'est quand même un petit thriller comme on dit.
Un petit.
C'est mélodrame aussi. Hein. La fin, c'est un côté mélodramatique. Hein.
Mais c'est
pas péjoratif.
Non,
quand
pas
je
tout,
dis
mais...
mélodrame, c'est que. C'est comme mélo, un peu de musique, un peu mélancolie, mélodrame. Disons que c'est pas le drame complet, mais parce que autour, c'est disons que c'est pas du quoi que il y a un peu de Victor Hugo là-dedans aussi. Quand
bah, ça va lui faire
ça.
Plaisir.
Non, mais je veux dire bon, les personnages sont tous pas bon enfant, mais je veux dire, ils sont tous sympathiques. C'est des gens ordinaires.
Mais c'est pas si sympathique que ça, hein, parce que c'est vrai que.
Mais les gens ordinaires sont pas si sympathiques
que ça.
Quand
ils ont les deux. C'est pas si manichéen que ça. C'est-à-dire que ça pourrait basculer vers un drame beaucoup plus fort.
Quand je dis ordinaire, je m'inclus.
Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que là, et l'écriture de Jean-Philippe aussi, mais c'est l'amour de cette femme qui est Marie Giraud, qui est un peu la matrone de la famille, grande résistante, qui elle va remettre toutes les choses à l'endroit.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Et au risque à la fin, enfin bon, ça je ne vais pas le dire parce que sinon.
Ben, ils le disent, hein, le synopsis c'est ça. Dans la famille Giraud, donc vous venez de le dire, on est coiffeur de père en fils, et c'est donc Pierre qui a dû reprendre le salon de coiffure de son père. Mort dans un camp de travail un an plus tôt. Marie, sa mère, héroïne de la résistance française, alors, c'est joué en alternance, hein.
Oui.
Ouais. Celle que j'ai vue était plus âgée que celle que j'ai sur la photo, je ne sais pas, c'est toujours la même.
Il y a toujours les mêmes équipes, seulement on alterne. Brigitte Faure ou bon. Raphaël Cambrai.
Enfin, celle que j'ai vue, je ne sais plus si c'était Brigitte Faure ou. Ça devait être Brigitte Faure, oui. Elle jouait très bien, hein. Et puis
elle est magnifique.
C'est l'héroïne de la résistance française quand même, hein.
Absolument.
C'est pas rien. Et
enfin,
donc une elle s'occupe du salon des femmes, mais elle se charge également de rabattre quelques clientes vers son fils. Alors en fait, son fils c'est un artiste peintre.
Oui. Il a une particularité tout à fait étonnante, c'est qu'il peint des femmes nues mais habillées.
Oui, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, voilà. Hein. Moi, je trouve, hein. Non, parce que.
c'est bien la chose. Elles sont habillées.
Sont habillées, donc elles sont pas nues alors.
Non, mais sur le tableau, il les déshabille.
Il les imagine nues. Ah voilà. Il veut pas qu'elles se déshabillent devant
non,
lui.
Non, absolument pas.
Mais après, lui, il est sur le tableau.
Voilà.
C'est rigolo, hein. C'est rigolo. C'est un peu la pointe de la poésie. Enfin, c'est le style de Jean-Philippe Daguerre. C'est qu'il compose un peu. Il a des idées à lui, fantaisistes, un peu de poésie. Et puis,
c'est énormément de. Oui,
et puis aussi le côté.
L'humanité, j'allais dire.
L'humanité, oui.
Il a recours à l'intelligence artificielle, sans doute.
Ah non, mais il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Et donc, on en a marre, cette intelligence artificielle. De toute façon, on est entouré d'intelligence artificielle.
Oui.
Bon, ben voilà.
Non, son intelligence n'est pas du tout artificielle, la sienne.
Non, ça a l'air très, très concret. Alors, moi, j'avais écrit un petit papier, je me demande si je n'ai pas tout faux. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que. Oui, nous reconnaissons la patte de Jean-Philippe Daguerre dans sa scénographie chaude où semblent nager comme des poissons dans l'eau des personnages modestes qui ne respirent pas le bourgeois et pourraient sortir tout droit de films d'avant-guerre avec Gabart, Letty, Michel Simon, Bernard Blier Jeune et compagnie.
C'est tout à fait ça.
On est dans cette atmosphère-là.
Oui, il y a une atmosphère, mais en même temps, on se situe dans l'époque aussi. Hein,
et ben voilà, c'est 45.
C'est 45, hein, c'est pas aujourd'hui.
Voilà.
Même et... si ce qui peut être joué à l'intérieur peut avoir des résonances aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une histoire qui se situe vraiment
ouais,
à la libération.
C'est un petit côté rétro.
Oui.
C'est une pièce dans la mise en scène, c'est un petit côté rétro. Mais... enfin, ça a beaucoup de charme, quoi. Et puis c'est très vivant, hein, comme mise en scène. C'est cosy aussi, c'est un petit côté cosy.
Ben, en plus, le décor est bien fait, dans le sens où c'est un peu pensé comme les livres qui s'ouvrent, font un nouveau décor.
Oui.
Comme ça, c'est Juliette Azopardi qui a fait le décor, qui est super.
Et
on rentre dans les espaces se mêlent, c'est-à-dire qu'on passe d'un espace à un autre assez facilement.
Mais cela dit, la pièce repose beaucoup aussi sur les interprètes.
C'est souvent Jean-Phi écrit une histoire, mais il écrit avant tout, ça c'est pas pour le, avant tout pour les acteurs, non, pour les gens.
Voilà.
Et ce qu'il aime, c'est aussi les rapports qui peuvent naître de ces humanités. Et c'est pour ça que, bien sûr, il y a énormément d'amour. C'est une histoire, comme on le dit, mélodramatique, mais elle pourrait tomber d'un côté ou d'un autre. Personne n'est vraiment blanc ou noir. Tout le monde a quelque chose à se reprocher.
Oui.
Et pourtant, on finit par être sauvé, non pas par les actes que l'on fait, mais parce qu'il y a un amour profond entre les gens. Et c'est cet amour-là qui sauve, en fait, finalement, en tout cas là, ici, pour la famille, mais c'est assez vrai pour beaucoup de ces
pièces. Au cœur de la pièce, on sent que ce sont les relations entre les gens, c'est-à-dire qu'effectivement, vous parlez d'amour, c'est la mère, c'est le fils, c'est la fiancée, puis vous, le personnage qui est le compagnon de la résistante là, mais qui lui, il fait partie de ceux qui font l'épuration.
Il en fait partie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un résistant. Hein. Il a fait toute la résistance.
Mais
c'est pas un fou. Hein.
Il fait partie des groupes qui veulent purger. Ouais. Voilà.
Bah, il faut savoir que quand même, la résistance avait commencé déjà en 42, hein,
ouais,
à faire ses petites sorties. Hein. C'était pas les.
Et même après 45.
Ah oui.
Et parce que justement, je parle de moi dans un article là justement, et c'est Michel Tourte qui m'a fait penser à ça, de l'actrice Mireille Balin, qui était la partenaire de Jean Gabin dans Pépé le Moko.
Ouais.
Et puis elle a été violée septembre 1944 par un groupe de résistants. Et elle s'en est pas remise d'ailleurs. On ne se remet pas de ce genre de choses.
Ben, je crois que non.
Non, mais parce que justement, elle avait une histoire d'amour avec un.
Ben, c'est terrible ce qu'ils ont fait, c'est terrible. Ça, c'est
oui, d'ailleurs, en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on ressortait dernièrement dans la presse, je ne sais pas pourquoi. Mireille Balin, le symbole de la résistance horizontale. Je trouvais ça de très très mauvais goût. Bon, pour plein de raisons, parce qu'en fait, bien évidemment, à partir du moment où quelqu'un a une activité artistique, on va toujours essayer d'en rajouter. Enfin, et Gabin, parce que tu parlais de Gabin, qui lui était avec une Allemande à cette époque-là. Bon, évidemment, elle n'était pas dans l'armée, heureusement.
Non, elle n'était pas tout à fait dans l'armée.
Mais quand même, lui, on ne lui a rien reproché. Enfin, je veux dire, bon, c'est normal.
Bah oui, c'est pas juste, un reproche toujours aux femmes. Et puis,
oui, en fait, il est parti aux États-Unis, après, il a un peu débarqué aussi, hein, quand même.
Ouais. Non, mais bien sûr, il a participé.
Non, il y a quand même eu des gens qui ont été inquiétés.
Je veux dire que les rapports humains entre les personnes n'auraient normalement pas dû avoir lieu d'être éprouvé, mais enfin bref, d'autant plus qu'au moment de l'épuration, ce qu'on appelle certains résistants infiltrés, qu'on avait vu donc forcément avec des Allemands, des résistants importants, hein, ont été exécutés. Enfin, ont été exécutés sommairement, hein, je veux dire, après, par jugement. Vraiment n'importe quoi.
Ça a été n'importe quoi, mais je crois qu'après toutes les guerres, il y a il y a des choses un peu horribles qui se passent. Déjà la guerre.
Bah oui,
en
mais
soi,
c'est pas. J'allais dire, c'est pas une excuse. Je veux dire, dans toutes les guerres, bah oui, mais.
Non. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est malheureusement, c'est un constat que voilà, c'est.
Ce qui est terrible, c'est quand on se dit, ça pourrait recommencer. Bah, moi, je dis ça comme ça, mais je veux dire, parce que nous, on a l'air comme ça, gentil, mais quand on se retrouve dans des circonstances comme ça, comment on va réagir? On ne sait pas. Il y a des gens qui n'ont jamais été amenés à exprimer tous leurs penchants, mauvais ou même bons. Ils n'ont pas eu l'occasion de les exprimer. Et là, dans des situations extrêmes, on découvre les gens se découvrent, découvrent des aspects d'eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais imaginé. Des gens qui se conduisent comme des, comme des salauds, d'autres comme des saints, mais enfin, bon, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, ça fait réfléchir quand même. Et ce qui est intéressant, moi, j'ai trouvé intéressant dans la pièce, oui, effectivement, on sent quand même, enfin, c'est ce qu'a voulu faire Jean-Philippe Daguerre, c'est que c'est un côté familial. Et le compagnon de la résistante, le fils coiffeur, l'institutrice fiancée du fils coiffeur, qui va être accusée d'avoir collaboré avec un Allemand, n'est-ce pas ? Et tout ce monde-là, ils sont plus ou moins déchirés quand ils apprennent qu'elle a collaboré avec un Allemand, mais il y a quand même une solidarité familiale quelque part. On sent, voilà.
Alors je ne sais pas si c'est un lien fort. Même en dehors de la famille, parce que lui, il est, par exemple, pour mon personnage, il n'est pas vraiment de la famille.
Non, mais les compagnons, contre, quand même, ça joue.
Il est le compagnon et c'est un véritable amour qu'ils ont.
C'est intéressant de montrer. Au départ, il veut vraiment la. Il veut vraiment la faire
Il veut la tuer.
Punir, hein, oui, et même tuer. Hein,
oui, il l'a tué, mais ça aussi, c'est par amour. Quand je disais, je veux dire peut-être une chose un peu bizarre, s'il le fait, c'est pour pas que la famille qu'il aime soit inquiétée du fait qu'elle soit avec quelqu'un qui aurait collaboré avec les Allemands. Et c'est la première chose qu'il va faire, bien sûr. Après, c'est un résistant. C'est vrai que quand je dis c'est un résistant, mais c'était pendant la guerre, comme il le dit lui-même, on en a buté beaucoup et pour moins que ça. Donc je ne vais pas me préoccuper finalement de...
Non, mais on peut pas reprocher à des gens d'avoir essayé de neutraliser des collaborateurs, c'est pas la question. Simplement, une fois que la guerre est finie,
c'est une horreur.
C'est un peu trop tard. Les résistants avaient autre chose à faire, ceux qui étaient encore vivants, c'est-à-dire une minorité. Enfin, ils avaient autre chose à faire que d'aller couper les cheveux.
Et ils auraient dû. Parce qu'il y en a, il y a quand même, parce que là, en tout cas pour Chartres, c'est vrai qu'il y a les nouveaux résistants, mais il y a aussi les Américains d'ailleurs, et aussi des résistants. C'est à l'entrée de. En fait, à Chartres, par exemple, c'est dès que les Américains sont arrivés, le matin même, en fait, ça s'est passé. Ils sont allés prendre 11 femmes. Directement sur la préfecture. Le jour même.
Vous auriez dû étudier. Ça veut dire quoi ? J'ai pas compris.
C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ça a été un mouvement. Quand les Américains sont arrivés à Chartres, ça a été un mouvement pour cet événement-là, direct. Et il y avait des vrais résistants, et beaucoup. Oui. Et aussi malheureusement.
Des gens qui avaient envie de régler.
Par contre, après, le procès que les femmes ont eu. Ça a été fait par les faux résistants. Oui, ça, c'est sûr.
Oh là là.
Ouais.
Des faux résistants, il y en avait pas mal. Oui.
Ah oui, aussi. D'accord.
Oui, c'est-à-dire que le procureur pour Simone Touzeau, mais qui va la condamner, était un procureur qui a été, clairement pro-nazi.
En plus,
juges qui ont jugé,
et il a tourné sa veste au moment de la...
avait été juge pendant sous l'occupation, en étant juge sous le régime de Vichy. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable d'ailleurs. les gens qui représentaient la loi, ils ont même pas eu besoin de changer de costume, ils ont gardé le même, mais c'est assez.
Mais c'est une horreur ce qui s'est passé, parce qu'il y a des femmes qui ont effectivement qui ont été collaboratrices, qui ont fait des choses, certaines, mais beaucoup c'était des jeunes filles avec des jeunes soldats allemands. Elles avaient 20 ans, ils étaient jeunes, ils étaient là quoi.
Les soldats allemands, c'était des recrues, hein.
Ils étaient souvent très gentils. Hein.
Oui, c'est ça.
Et puis, ils avaient 20 ans. Donc, et puis, pour d'autres, il y a même des résistantes qui informaient et qui ont quand même été tendus. C'est une horreur ce qu'on a fait. Les croix gammées au fer rouge sur le front, c'est
ah
horrible.
Ah
oui,
c'est vrai.
Ah oui, ah oui. Non, l'épuration a été quelque chose d'horrible. Ah, je oui. me demande comment c'est possible, toute cette haine qui ressort et qui. Ah, c'est horrible.
Oui, c'est horrible, effectivement. Ouais.
Mmh. Et donc, qui a été laissé faire, et puis après, c'est vrai qu'après, De Gaulle, il a dit bon, alors on arrête là.
Bah, oui, effectivement.
On va faire des vrais procès. Mais les vrais procès aussi ont été faits par des gens qui n'étaient pas vraiment. Voilà.
Ah oui.
Donc, parce que beaucoup ont été fusillés, mais d'autres non. Simone Touzeau, par contre, son avocat a été très fort, donc il a fait repousser le jugement. Et elle a pu. Elle n'a pas vécu longtemps, la pauvre, parce qu'elle a. Son procès a été repoussé, donc elle n'a pas été condamnée.
Oui, il fallait être costaud. Arletty, elle s'en est bien sortie, parce que c'était quelqu'un de très costaud, ouais, psychologiquement.
Ouais, mais bah oui, elle a dit son cul était international.
Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que si on prend l'histoire pour Simone Touzeau, n'a pas dénoncé. Ce pourquoi on l'a accusée, c'était pas vraiment elle, c'est une autre qui est partie. Mais c'est vrai qu'elle a. On va dire que son. Même elle et sa famille pendant la guerre, ça n'a pas été une famille honorable, on va dire. Enfin, en tout cas, elle a quand même été avec les Allemands. Elle a donné des informations assez importantes par conviction.
Ah, ça c'est oui. Enfin. C'est...
Mais ça n'empêche que c'était pas la sentence n'était pas. C'est pas possible. Voilà. Mais tout ça, toute cette histoire, en fait, se mêle. C'est-à-dire que des gens qui sont a priori, parce que c'est un peu ça aussi quand même qui est véhiculé, des gens qui sont a priori pas comme le pauvre Pierre qui est un peintre, qui lui est destiné à faire une vie, mais tout à fait normale, sans encombre. Et il va être poussé à commettre l'hyperbole.
Ce qui est grave. Et parce que c'est là on voit par exemple le danger d'obéir au collectif. C'est que c'est bien le collectif, mais parfois l'individu face au collectif, il perd pied parce que là le pauvre coiffeur, il va être amené, alors que c'est pas du tout dans son intention, à tondre des jeunes filles parce qu'il il est pris dans la dans la foulée, on dit vas-y, viens.
Pour venger son père, oui.
Oui, pour venger son père. Et il y a une telle pression que finalement, il va le faire. Il va le faire. Quitte à le regretter, bien évidemment.
Ah, mais ça, clairement.
Mais c'est intéressant comme démonstration. Comme démonstration de voir que, comme quelqu'un qui, en fait, n'aurait jamais voulu faire ça, il se retrouve à le faire. Et ça. Ça, c'est dur, quoi. Mais ceci dit, dans la pièce de Jean-Philippe Daguerre, tout est exprimé de façon. C'est toujours jovial, quelque part. Quand les événements sont racontés, c'est toujours, quand même, de façon. Oui, très humaine. C'est pas.
Mais on n'est pas là pour. Enfin, je crois que c'était pas ni pour enfoncer un clou d'un côté
ou
d'un autre.
Oui, c'est ça. Mais oui, mais
c'est pour raconter une histoire. C'est raconter une histoire en donnant les éléments.
Justement. Mais
en passant du rire aux larmes, comme dans la vie, en fait.
Il aurait pu appuyer sur le truc vraiment dramatique. Non. Bah, ça, c'est chacun son style, chacun son
coup. Non, Jean-Philippe, il tombe. Enfin, c'est pas rare, c'est pas son créneau.
Voilà, exactement. Et ce qui fait que. C'est en fait c'est un spectacle tout public.
Hein, absolument tout public.
Même des enfants.
On a eu des enfants qui sont venus avec leurs parents, bien sûr. Mais, ouais. Et la réception est très très bonne. Mais il ne faut pas croire, hein, parce que c'est quand même des questions qui intéressent aussi les jeunes gens.
Mais donc, bien sûr. Oui, c'est vrai. Bon, on se dit que ça s'est passé il y a je ne sais pas combien d'années. 80 ans, plus de 80 ans.
Et ça pourrait se repasser encore aujourd'hui.
Mais bien sûr, oui, parce qu'on ne sait
malheureusement,
pas.
Malheureusement, pas. Déjà, je trouve que ça. Bon, des fois, ça se situe un peu, quand même.
Quand on voit. Il y a toujours un flou incroyable quand on parle de collaboration entre la collaboration, c'est-à-dire les STO qui travaillent en Allemagne, etc., et la collaboration avec la Gestapo, qui est un autre sujet. Enfin, qui est, évidemment, c'est dans un tout, mais enfin, c'est quand même pas la même chose. Et ça, c'est souvent mal expliqué pour les jeunes aujourd'hui. La collaboration, pour eux, ça doit être quelque chose de très, très, très vague. Hein.
Je pense que la guerre doit être très, très, très vague à l'époque. Elle commence à.
Mais de toute façon, c'est un sujet sensible. Je ne sais même pas si dans les classes de première ou terminale, on aborde ce sujet. Hein.
Si, je pense.
Quand même,
si,
oui,
si,
mais enfin, bon, on doit l'aborder de façon assez rapide
mais
quand même.
Que comme nous, on a des. C'est vrai que c'est ceux qui l'ont vécu, ben, ils commencent à ne plus exister. Donc la parole, elle disparaît petit à petit.
Donc, il va falloir dire où ça se passe. Et parler de vos collègues aussi.
Ah, ben oui.
Parce que vous n'êtes pas tout seul.
Ah ben, certainement pas.
Non, je plaisante. Vous réservez le méchant rôle parce que quand même, à un moment donné, vous voulez quand même la...
J'ai le méchant, mais je fais quand même une bascule. J'ai un vrai parcours, passé de l'ombre à la lumière, on va dire. Ça se joue de mercredi au dimanche au Théâtre des Gémeaux. Et à 19h, non, à 21h le mercredi et le vendredi, et à 19h le jeudi et le samedi, et à 15h le dimanche. Voilà. Alors c'est avec Brigitte Faure.
Elle est brune, hein?
Elle est brune, mais elles sont toutes les deux brunes en fait.
Ah bon, j'ai une photo où elle est blonde. Bon,
oui, oui, elles sont toutes les deux brunes. Brigitte Faure, Raphaël Cambray, Charlotte Mazneff, Sandra Parra, Félix Beauperrin. Il y a du mouvement. Arnaud Dupont. Il faut que je dise tous. Hein. Pierre Benoît. Julien Ratel, parce qu'à chaque fois on est deux sur les rôles.
Et
Thierry Sauzet.
Vous êtes avec Julien Ratel? Non.
Non. Ça c'est Arnaud Dupont, Julien Ratel et Thierry Sauzet qui font le frère, qui a un rôle important, qui est le frère.
Ah oui, c'est vrai, le frère.
C'est ce qui amène la poésie d'ailleurs.
Oui, c'est le frère qui est
pièce.
Un petit peu le pyrrhon lunaire.
C'est ça, enfin, on va dire comme ça.
Ou l'idiot du village, mais l'idiot du village.
Pas tant que ça.
Mais pas tant que
pas
ça.
Pas tant que ça.
Mais enfin bon, c'est le père.
C'est lui qui amène.
C'est lui qui est un peu. C'est le pyrrhon, un petit
oui,
peu.
Oui, ça va être le lien de la famille. C'est lui qui va être.
Il fait semblant de rien. Enfin, on se dit, il ne comprend rien, mais en réalité,
il comprend tout.
Voilà. Ouais, c'est ça.
Oui, et oui. C'est lui qui va sauver cette famille, en fait.
Ouais. Alors, je pense qu'on va quand même. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs YouTube. Hein. Moi, je sais
et
pas...
Thibaut Pinson, parce que j'allais oublier. Il y a aussi Thibaut Pinson, parce que sinon je.
Donc, le théâtre.
D'ailleurs, ce soir, c'est Thibaut.
Le théâtre des Gémeaux. Bonjour, monsieur. Le théâtre des Gémeaux, parisien, c'est 15 rue du Retrait.
Oui.
Je me trompe pas.
Non.
Arrondissement 20e. Non.
Alors, je crois que c'est le 20e.
Enfin, si c'est le 20e, du côté de Gambetta, métro Gambetta.
Voilà. Et c'est un nouveau théâtre qui vient d'ouvrir. Donc nous, on le reprend là-bas. On est très heureux de faire l'ouverture du théâtre.
Ah ça, il faut y aller, hein, voilà. Voir ce spectacle. C'est vraiment un spectacle tout public. Hein.
Ah oui, tout à fait.
C'est un spectacle qui, quand on en sort, on est content. Enfin, on est content parce qu'on a l'impression d'avoir vécu une histoire bien racontée, très joliment mise en scène et très bien interprétée naturellement. Je ne vais pas vous dire des... Je vous lance des fleurs, mais bon, quand même. Bonjour. Alors là, je vous présente un comédien qui joue dans les variations pirandelliennes.
Exactement.
Voilà.
Oui.
Ah, oui.
Au théâtre de Poche, Montparnasse.
Au théâtre de Poche, Montparnasse. Oui. Et moi, j'ai été absolument... alors, on va passer, avant de passer à vous,
ah,
monsieur,
vous en prie,
excusez-moi.
Alors,
on va passer... alors, il y a plusieurs YouTube hein, sur en bande-annonce des petits coiffeurs. Je sais pas lequel choisir. Hein.
Ah, je ne sais pas.
Oh, vous ne savez pas.
Je
ne
sais
pas.
Je les bandes annonces, je ne les regarde pas beaucoup.
Ah bon, d'accord.
Mais.
Il y en a une qui fait 1 minute 46, qui n'est pas trop mal.
Peut-être que ça doit
mais
être.
Mais bon.
Voilà, ça c'est. La première, elle a été faite il y a longtemps. Hein, c'était à la création, parce que c'est vrai qu'on l'a joué un petit moment maintenant.
Non, c'est pour un petit peu.
Oui.
Sinon, tant pis. Hein, la première que sur laquelle tu tombes, hein, tant pis.
Je peux vous balancer 20 minutes d'extrait, non,
on va... Non,
ça va faire trop. Ça va faire beaucoup. Enfin, ou si, sinon, après, ils ne vont pas venir ce soir. ça va spoiler tout. Non, il y a une petite bande, mais sinon, je vais en avoir une.
Ça y est, c'est parti.
Ça y est, c'est parti.
Je vous en prie.
Vous êtes bien, moi, la petite Berthier.
Elle est jolie, mademoiselle Berthier.
Être célibataire à son âge, c'est pas normal.
Elle n'est pas célibataire, elle est veuve.
Oui, c'est la veuve d'un héros qui est tombé pour la France. Une veuve, ça se remarie.
Je te connais depuis 3 mois, c'est presque jamais rien dit, je sais rien de toi.
C'est sans doute beaucoup mieux comme ça.
La maison fait crédit à ses amis. Sauf aux nazis.
Et les collabos aussi.
Alors pour moi, on fait comment ?
La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tendu le crâne rasibus, le crâne rasibus. Son penchant prononcé pour les ichlibediches, pour les ichlibediches, lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiches. Les braves sans culottes et les bonnets phrygiens et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie, je ne mérite guère, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre, j'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur, avec trop de rigueur. J'ai ma rosette à moi, c'est un accroche-cœur, c'est un accroche-cœur.
Tonton Georges, bien sûr, s'imposait dans cette illustration. J'en profite pour vous signaler, puisqu'on parlait de cette période de la collaboration et de l'épuration, que Romain Slocombe sera l'invité de Bulle Noire, je crois, la semaine prochaine. Romain Slocombe pour sa série de Lippe Sadorski, cet individu qui se retrouve finalement à se promener à différents endroits de notre histoire de France. Et les romans de Romain Slocombe sont hyper bien documenté sur toute cette période. Ici les studios, à vous les studios. Evelyne, je vous rends la parole, Evelyne.
Eh ben, et il faisait peur aussi.
Ah non, là je suis Zola, je fais pas peur.
Ah, eh ben.
Ça y est, on est à
l'antenne. Tenez, donnez-moi votre téléphone. Enfin, parce que pour Zola, je peux vous inviter, hein. Vous réinviter.
Ah
hein.
Ben.
On est à l'antenne. Oui, pas de souci, on est à l'antenne. Okay. Le stylo, pas celui à stylo. Et donc, on est entre Zola et Pirandello.
Un grand écart, ouais, bon, c'est la même époque, quasiment.
Ça se joue quand, là, les téméraires, là? Ça va se jouer à Paris quand?
Là, on l'a joué déjà à Paris, mais on est surtout en tournée en ce moment.
Surtout en tournée?
Oui.
D'accord. Mais même, n'empêche, hein, moi je trouve que ce serait intéressant hein, de... Bah, que vous veniez avec, avec votre personnage de Zola, oui.
Bah, avec grand plaisir.
Enfin bon, là, si vous êtes en tournée, vous n'aurez pas le temps de venir.
Oh, bah, je...
Si.
Entre deux jours.
D'accord.
Je vous laisse mon mail, c'est ça?
Oui, oui, oui. Alors, variation pirandellienne. Donc, vous êtes Samir...
Siad. Tout à fait.
Voilà.
Et, l'un des trois comédiens.
L'un des trois comédiens. Et alors, moi, j'ai donc ces variations pirandellennes. Donc, c'est mise en scène par Valérie Aubert.
Tout à fait.
Ouais, qui joue dans deux
des quatre pièces.
Des quatre pièces ouais. Qui sont en fait des petits monologues, hein, on peut dire ça, enfin, ça, en grande partie. Hein.
Oui, la fleur à la bouche, c'est quand même un dialogue. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, le protagoniste principal prend la parole. Tché-tché, qui est la première pièce, c'est aussi un... Il y a deux personnages. Et puis, effectivement, Circuler, la deuxième pièce, Valérie Aubert est toute seule. Et Donna Anna, on est quand même trois sur scène. Et non, c'est pas qu'un pur monologue. Mais c'est vrai que chez Pirandello, les personnages ont tendance, de temps en temps, à prendre un sac à parler de la parole et puis voilà, d'exposer leur point de vue.
Ouais. Oui, oui. Mais ce qui m'a le plus... Alors, Michel, tu l'as pas vu, la pièce de Variation pirandellienne. C'est quatre petites pièces de Pirandello, mais il en a écrit des quantités, en fait. Hein.
Oui.
Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a... pourquoi Valérie Aubert les a choisis en particulier. Mais en tout cas, elle a fait un bon choix. Mmh. Donc, il y avait Cécé. C'est l'histoire d'un homme un peu mondain, un peu voyou, qui entraîne son ami à...
Un entrepreneur, il essaie de lui soutirer de l'argent.
Voilà,
parce qu'il
c'est
a
ça.
Des déboires avec une femme... à qui il a versé de l'argent, il voudrait les retrouver, voilà.
Oui, oui, oui. Là, vous jouez un personnage un peu rentre-dedans, un peu...
Oui, c'est une espèce d'Italien. Alors, ce qui est intéressant dans ces pièces, effectivement, ce sont des pièces en un acte, mais en fait, pas tout à fait. Par exemple, il y a quatre moments dans le spectacle qui font ces variations, justement. On a voulu faire une espèce de variation. Il y a quatre moments. Donc, Tché-tché, en fait, c'est une pièce en deux actes, au départ. On a conservé le premier acte seulement.
D'accord.
Parce qu'on a voulu montrer chez Pirandello, il y a cette profondeur, on pourrait dire quasi métaphysique chez Pirandello, poétique, mais il a aussi une manière italienne de jouer avec le cocasse, la farce, et notamment Tché-tché, c'est comme un vaudeville au départ. Mais on n'a pas voulu monter un vaudeville, on a voulu montrer comment ce personnage un peu superficiel, mondain, effectivement...
Je ne sais pas, quelque part, ça fait... Il y a un peu de la comédia dell'arte.
Exactement. C'est vrai, chez Pirandello, c'est ça qui est bien. C'est là où il y a... parallèlement, il y a une autre pièce qui est jouée au Théâtre de Poche actuellement, La Tempête de Shakespeare. Mais c'est vrai qu'il a cette manière qu'ont les Anglais, le théâtre élisabétain, et peut-être moins en France, de mélanger les genres.
Oui.
De passer du comique au tragique très facilement.
Oui.
Et c'est vraiment la manière de Pirandello. Et donc, on a voulu montrer cela, mais justement, on n'a pas voulu se contenter justement de cette légèreté de vaudeville. Et il est saisi à la fin de ce premier acte, parce que chez Pirandello, il y a ça un petit peu, je crois. On est tous un peu à la surface de nous-mêmes dans la vie. Et de temps en temps...
La plupart du temps...
Oui,
hein.
C'est ça, on prie dans les soucis... Dans
d'ailleurs,
dans
je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on fait des... on termine une lettre...
Oui.
J'allais dire je vous salue Marine, non, parce que ça n'a rien à voir. quand on termine une lettre, veuillez agréer, madame, monsieur, sentiment distingué, meilleur, pas meilleur, meilleur sentiment. En fait, on ne sait pas quoi dire. Enfin, je veux dire, on se carapace devant des formules, conventions, et on n'en sort pas, en fait. Ouais. On en sort très difficilement. Et si on en sort, on est pris pour pour des farfelus ou pour des dingues.
Exactement, c'est très juste et c'est très pirandellien ça. Et d'ailleurs, je crois que dans une de ses nouvelles, parce qu'il n'est pas seulement auteur de théâtre, mais il a écrit beaucoup de nouvelles,
oui.
Il avait le projet d'écrire une nouvelle par jour pendant une année.
Oui.
Il a donc 365 nouvelles, il a, du début à la fin de sa vie, il a écrit des nouvelles, il est arrivé à 253, si je ne dis pas de bêtises, donc il a écrit beaucoup de nouvelles. Et dans une des nouvelles, il parle de ce que vous soulignez très justement. C'est qu'il, d'ailleurs, pour schématiser, il dit il y a les petits mois. Nous sommes tous des petits mois, un petit peu à la surface, pris par mille soucis, etc. Et il y a des grands mois qui ont cette capacité, d'un coup, à descendre dans les profondeurs. Et c'est ce choc, c'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure de monologue, c'est ce choc entre ces personnages qui, où il y a une futilité apparente, et d'un seul coup, il y en a un des personnages qui plonge vraiment dans les abysses, ce qu'on ne fait pas dans la vie. Effectivement, il peut passer pour un fou alors qu'il touche des choses essentielles dans notre vie intérieure.
Oui, et souvent d'ailleurs, ces gens-là, ce sont des gens, pour arriver à se désinhiber, comme on dit. Oui. Parce que c'est ça, c'est se désinhiber. Alors, soit c'est un coup d'alcool, un coup de vin, soit une forte émotion.
Oui.
Et puis quand on n'a plus rien à... Plus rien à perdre, quelque part, parce que dans ces quatre pièces, on est en face de personnes qui maintenant j'y pense, n'ont plus rien à perdre.
Mais côtoie la mort, effectivement.
C'est ça. C'est et il y a le thème de la mort qui est présente, il me semble, dans chacune des pièces.
Et effectivement, c'est pour ça qu'on a commencé par Tchétché, ce vaudeville. C'est comme une fausse piste, mais qui est très pyrandélienne, parce que justement, ce côté cocasse, farcesque, léger. Mais c'est pour ça qu'on a coupé au premier acte. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand la pièce, cet acte, on l'achève, il est comme suspendu. L'entrepreneur rappelle Tchétché qui sort de la scène.
Oui.
Et il y a une musique de Delerue, empruntée au mépris, qui le saisit, où d'un coup, il y a une. Comme s'il était fauché par quelque chose de tragique.
Foudroyé. Voilà. Ouais. J'aime bien d'ailleurs la musique italienne. Moi, j'adore. J'adore. Malheureusement, j'ai fait un petit enregistrement, mais assez médiocre. Mais tout à l'heure, je vais vous demander de reprendre un petit monologue de l'homme à la bouche à fleurs.
Ah, j'avais peur que vous me demandiez de chanter en italien. Là.
Non. Parce que je n'ai pas trouvé sur YouTube de bande-annonce.
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas très fort là-dessus. Hein. Il y en a qui sont meilleurs que nous. Hein.
Non, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Alors, je ne sais pas. Ouais. J'avais fait deux petits enregistrements pirates, mais c'est pas très bien et ils sont pas formidables. Est-ce que je les passe ou est-ce que je les passe pas? C'est ça que je me pose. C'est Hamlet.
Oui, c'est comme. C'est comme ça avait été enregistré à l'époque de Pirandello, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas très. Ils sont pas très bons, mais bon, on peut les passer quand même. Ça ne dure pas longtemps. C'est pas bon, hein, mais...
Ouais.
Je me dis que j'ai besoin de m'accrocher par imagination à la vie des autres. Mais comme ça, sans plaisir, sans m'y intéresser. Le grand du monde, au contraire, pour s'en faire l'ennui, pour la juger insipide et vaine, la vie. Au point que vraiment, ils ne doivent importer à personne d'arriver à sa fin. Et ça, voyez-vous, il faut le démontrer par des preuves et des exemples incessants à nous-mêmes, implacablement, parce que nous ne savons pas de quoi il est fait, mais il existe. Il existe. Nous sentons tout cela comme une angoisse qui nous serre la gorge, le coup de la vie, qu'on ne satisfait jamais. Qu'on ne peut jamais satisfaire. Parce que la vie, au moment même où nous la vivons, est si avide d'elle-même qu'elle ne se laisse pas savourer la saveur. Et dans le passé, qui demeure vivant en nous, le goût de la vie nous vient de là, des souvenirs qui nous tiennent enchaînés. Mais enchaînés à quoi? À cette bêtise? À ses ennuis, à toutes ces illusions idiotes, ces occupations ineptes. Oui, oui, ce qui est maintenant une bêtise, ce qui est maintenant un ennui, et j'irai même jusqu'à dire ce qui est maintenant pour nous un malheur, un vrai malheur, parfaitement, à distance de 4, 5, 10 ans. Qui sait quelle saveur ils auront prise, quel goût auront pris ces larmes et la vie. La seule idée de la perdre, surtout quand on sait que c'est une question de jour. Là, regardez là, là, vous voyez cette ombre de femme?
Oui, c'est. Moi, c'est vrai que je suis assez sidérée quand j'ai. D'ailleurs, j'ai voulu relire un peu la pièce, mais en fait, c'est fou, quoi, ce que ce personnage, la bouche à fleurs, raconte. Parce que c'est... d'abord, il se confie à un inconnu. Alors, ça se passe dans un...
café.
Dans un café, il parle à quelqu'un qui vient de rater son train.
Voilà.
Et puis, au fur et à mesure, il part dans une confession, il parle de lui-même. Quelque part, moi, je trouve des résonances un peu à Dostoïevski. Il y a des personnages de Dostoïevski.
Oui, c'est vrai.
Il y a un peu de ça.
Ah,
un
oui, petit c'est
peu.
Juste.
Et puis, ce qu'il raconte, alors, je crois, parce que j'ai lu des trucs de Pirandello, c'est vraiment lui-même. Il y a beaucoup de Pirandello là-dedans. Enfin, je veux dire, il y a l'auteur lui-même qui passe à travers ces personnages. Mais ça reste un personnage. Et vous, alors, comment... Parce que je trouve que ce sont des personnages qui racontent des choses... Ça, on est quand on rentre dans ces textes, parce qu'on ne comprend pas tout de suite, hein, je veux dire, quand on rentre là-dedans, c'est un personnage qui est extrêmement fort, enfin qui raconte des choses qui, ce sont des angoisses un peu existentielles, mais on ne rencontre pas ces personnages tous les jours dans la vie, et puis même parfois. Ces gens-là, on leur coupe la parole. Tais-toi, tais-toi. Ne parle pas de ceci, ne parle pas de la mort, ne parle pas de la maladie. C'est vrai, hein, c'est un peu tabou. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'un personnage comme ça, il n'en peut plus et il va... Il sort tout ce qui a été comprimé en lui et qu'il n'a pas pu dire à sa femme, par exemple. Parce qu'à un moment donné, sa femme, elle est là quelque part et elle le suit. Et là, il s'adresse à un inconnu.
À propos de sa femme, c'est intéressant parce que vous avez l'extrait fini par la femme. C'est toujours inconfortable de s'écouter. Hein. C'est...
Ah, excusez-moi. L'enregistrement n'était pas bon.
Mais c'est tant mieux. Au contraire, ça fait un peu comme si c'était quasiment un contemporain de Sarah Bernhardt. Là, c'est très bien. Non. Au contraire, ça donne un peu un halo de mystère. C'est parfait. Ce que je voulais dire, c'est qu'il dit, vous voyez cette femme, eh bien, j'ai eu l'intuition en jouant. J'ai été surpris par ça. Mais je me suis dit, mais en fait, cette femme, ce serait une erreur de le prendre comme sa femme, comme ça, un problème de ménage. C'est la mort qu'il aperçoit, qui est cachée, qui disparaît, qui réapparaît. Il y a cette imminence de la mort qui vient. Elle dit, elle n'a pas de me suivre jour et nuit, elle ne dort pas. Elle me suit, elle se colle comme une de ces chiennes enragées, têtues, un peu comme les Érénies, vous voyez, de la tragédie grecque.
C'est la faucheuse.
Voilà, faucheuse qui lâche pas. Donc, chez Pirandello, il y a tous ces niveaux. C'est ce qui est extraordinaire chez Pirandello, c'est qu'il joue avec un... Au départ, il part du vérisme, d'un côté très réaliste, naturaliste, presque un petit café. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de succès après la Deuxième Guerre mondiale, au moment des Beckett, ça, parce qu'il y avait beaucoup de metteurs en scène qui ont tiré le théâtre de Pirandello vers cela, un théâtre un peu existentiel et tout ça. Mais ce qui est intéressant en même temps pour le comédien, c'est que c'est pas un théâtre purement métaphysique, et pour le spectateur aussi, c'est que il y a cette illusion du théâtre qui est agréable, d'un coup des personnages qui discutent d'abord de façon futile, et d'un coup, pouf, il y a comme un... Vous savez, ça me pensait à ces orques. J'avais vu une fois un documentaire où il y avait une femme qui aimait bien observer les orques et, avec son petit, et d'un coup, on sait pas ce qui s'est passé dans la tête de la mère de l'orque, elle a pris cette femme par la jambe et elle l'a emmenée dans les abysses, comme ça, et elle a fait remonter à la surface après. Et Pirandello, il y a un côté comme ça. Il est un peu cruel, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant au théâtre de poche, c'est quand même au théâtre de poche, c'est un espace que j'ai découvert, on n'y avait jamais joué. C'est assez, comme le dit le nom, assez petit. On est très proche du public. Et d'un seul coup... Assez étonnant théâtralement, parce que justement, je vois bien que ça fait violence, et ce que fait Pirandello, c'est qu'à un moment donné, il embarque les spectateurs un peu à l'image du client paisible, qui au départ l'air de rien, on discute, on parle de tout et de rien, et il y a cette plongée d'un seul coup, et je crois que c'est ça, ou c'est pas un théâtre, c'est un théâtre très plaisant, qui apporte beaucoup de plaisir, je crois, en tant que spectateur, mais c'est pas un théâtre de divertissement, j'ai rien
contre le divertissement. Le personnage a un côté inquiétant.
Voilà. Ah, ouais, oui, et puis il s'amuse de ça, hein. Et parce qu'il sort même exprès à un moment, il menace en disant non, je plaisante, comme s'il allait le tuer, tout ça. Donc il joue aussi un peu.
Ce sont des personnages. Enfin, lui, moi, je trouve qu'il a un côté inquiétant. Ce genre de personnage, on dit, mais il est un peu. Il est dingue,
comme vous disiez très justement tout à l'heure, des personnages comme ça qui sont pourtant, quand on regarde ce qu'il dit, il est d'une sincérité étonnante, mais il peut passer pour fou, parce que justement on n'a pas l'habitude, il casse, mais ça c'est Pirandello, vous avez tout à fait raison, les bienséances.
Oui, c'est ça. Ouais.
Il n'y a plus de bienséances, d'un coup on est vraiment face au mystère de l'existence.
Oui, oui, oui. Et bon, comme on vit à une époque où on est tous un peu censés vouloir se protéger, c'est pas évident de mettre en scène du Pirandello, je veux dire. C'est pas forcément accessible à tout le monde, parce que, bon, aujourd'hui, on est quand même plutôt dans... je trouve, par exemple, le théâtre de boulevard, moi, j'ai rien contre, mais c'est quand même très conventionnel, hein, bon...
Pas du théâtre de boulevard, il n'y a pas que... Si, vous trouvez, non, c'est pas la majorité, si, je m'en rends pas compte, moi, j'habite en province.
Comment que la majorité...
La majorité des spectacles, vous trouvez qu'ils sont plutôt des spectacles légers, comme ça? Il y a quand même pas mal de spectacles qui veulent...
Oui, il y en a, mais je sais pas s'ils ont tellement de spectateurs et spectatrices, hein. Voilà.
Mais hein, là, bon, c'est vrai, vous avez raison, le théâtre de texte aujourd'hui est plus difficile à défendre, hein, le texte.
Mais je pense, parce que peut-être qu'aussi les gens, ils ont pas envie de se casser la tête, aussi, ils ont envie de se divertir, mais c'est très compréhensible, je suis absolument pas contre, mais on peut aimer les deux, on peut aimer Jean-Philippe Daguerre, et son petit coiffeur, hein, qui raconte des événements qui sont... D'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir.
Mais bien sûr, tout à fait. Ça m'a tout à fait intéressé, ce que j'ai entendu. Mais j'ai pas l'impression que c'est quand même... Il y a des choses qui sont racontées assez, assez profondes.
Oui, oui. Mais c'est pas du tout le même style. Oui, mais moi, je peux aimer l'un et l'autre. Hein. C'est pas... Mais ce qu'il y a, c'est que...
Moi aussi, j'aime beaucoup... Vous savez, j'aime beaucoup le théâtre, la comédie de l'art, la farce, faire rire, etc. J'aime beaucoup.
Oui, mais le théâtre est grand, je veux dire, il y a la place pour tout le monde. Hein, bon.
Pour parler de cinéma, Louis de Funès, j'aime beaucoup Louis de Funès. Mais à un moment donné, regarder que des gendarmes à Saint-Tropez, ça peut être un peu usant, quoi.
Ouais, mais ceci dit, moi j'ai trouvé...
Ça peut être désespérant, même.
J'ai trouvé que vous l'interprétiez de façon assez saisissante, hein, ce personnage. L'homme... À la bouche en fleur,
la fleur à la bouche.
La fleur
à la
bouche.
C'est étonnant parce que ce texte, c'est une des quatre pièces, hein. Ça s'appelle La fleur à la bouche. Alors c'est un des chefs-d'œuvre, hein, de Pirandello dans les petites formes. Mais au départ, comme je vous le disais, il a écrit des nouvelles.
Oui.
Alors c'est étonnant d'ailleurs parce que son inspiration théâtrale, c'est pour ça qu'on a appris ces petites formes aussi. C'est pour faire écho à cette manière qu'il a de faire les formes courtes.
Oui.
Et beaucoup de ses pièces de théâtre sont issues de ses nouvelles. Et en l'occurrence, La fleur à la bouche, il a quasiment extrait, comme c'est un dialogue dans cette nouvelle, la nouvelle, il l'a mis au théâtre. Et là où il est génial, Pirandello, c'est qu'avec quelques indications scéniques, quelques silences, quelques respirations, il en fait une machine théâtrale redoutable. Et au départ, ça s'appelait pas La fleur à la bouche, c'est là où au théâtre, il a amené ce suspense, ça s'appelait La mort à la bouche. Donc tout de suite, il donne... Parce qu'en fait, il a une tumeur à la bouche, ce personnage, qui va révéler à la fin. Et donc, il est condamné à mourir à petite échéance. Et donc, ça n'a pas donné à vous avoir envie de beaucoup de lire toutes ces choses un peu graves. Mais il a appelé ça, donc, La mort à la bouche dans la nouvelle. Et même avant, c'était Le café ouvert la nuit.
Ah oui.
C'est dans un café. Et ce café aussi, c'est un lieu... Alors, c'est un petit café mytho dans un faubourg sicilien. Mais en même temps, c'est comme un endroit un peu métaphysique, comme une espèce d'endroit qui est tout le temps ouvert. Et comme si c'était une antichambre un peu de quelque chose d'autre.
Oui, ben justement.
Il y a toujours un peu tous ces niveaux chez Pirandello.
Justement, c'est ça qui est assez séduisant. C'est qu'effectivement, on peut très bien s'identifier à ce genre de rencontre, parce que les petits cafés isolés dans un petit village de campagne, là, le train qui s'arrête dans une banlieue connue. Moi, je sais pas, vous êtes allé dans des petits cafés déserts.
Qu'est-ce que vous avez bu? C'est ça la question.
Non, mais si, c'est arrivé une fois dans votre vie de rentrer dans un café, il n'y a presque plus personne, et puis vous voyez
Mais en Italie, c'est pas mal ça aussi, hein. En Italie, c'est pas mal, avec quelques réverbères comme ça, ce qui fait bon vivre à l'extérieur. Donc voilà, on peut imaginer des gens à tabler comme ça.
Mais même aujourd'hui, je veux dire, on se rend pas compte, mais aujourd'hui, si on s'amuse à regarder les gens, alors peut-être parce que je suis férue de littérature, mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais tiens, cette personne, mais oui, elle pourrait être dans une pièce de Pirandello. Parce que je vois les gens dans la rue. Ils savent pas forcément qu'on peut le regarder, mais les gens sont simples dans la réalité et sont pas tous sortis de la télé ou sophistiqués.
Non, c'est ça,
hein. Si on se laisse aller, on regarde les gens, ils ont envie d'être simples, ils ont pas envie de l'extraordinaire. Et ce que j'apprécie chez Pirandello, c'est qu'en fait, ce sont des gens de la rue, enfin que on peut voir nous dans la rue, parce qu'on ne va pas rentrer chez eux, mais on les voit dans la rue. C'est des gens qu'on peut rencontrer
tous les jours,
comme ça tous les jours,
avec un mystère. Si on ne part pas un regard superficiel, rapide et avec des idées reçues, ce qu'on se rend compte, c'est une personne humaine à part entière, avec tout son mystère, toute son histoire, même si c'est quelqu'un, comme vous dites, qui n'est pas célèbre, qui n'a pas de... Mais chaque être a son destin, quoi.
Mais il y a des gens qui ne sont pas célèbres, ils ont des histoires extraordinaires, mais si tout le monde commence à raconter l'histoire de sa vie, on n'en finirait plus, quoi. On serait en train de tout le temps de lire...
Mais là, excusez-moi de l'interrompre, mais ça fait écho à une chose très juste que vous avez dit tout à l'heure, à propos de Pirandello. Bon, là, on s'attarde beaucoup sur la fleur à la bouche. Il y a d'autres pièces dans le spectacle, hein,
oui.
Donna Anna, etc. On pourra en parler si vous voulez, mais ce qui est intéressant dans la fleur à la bouche, dans cet homme, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est comme une projection de Pirandello lui-même.
Oui.
À un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, il dit quelque chose comme ça. Il parle des boutiques. Il dit, j'ai besoin de me tenir devant les boutiques, à observer l'habileté des vendeurs.
Mmh.
Et puis, je regarde le client... La cliente qui sort de la boutique, le paquet pendu au doigt ou à la main ou sous le bras, je les suis des yeux jusqu'à ce que je les ai perdus de vue en imaginant. Ah là là, tout ce que j'imagine, vous pouvez pas vous imaginer, mais j'ai besoin de ça. Donc en fait, ce personnage a vraiment la figure de Pirandello qui observe la rue, comme vous dites très justement, et qui regarde un tel ou une telle et qui voit son destin. Il rentre dans la maison de cette personne. Il va jusqu'à sentir l'odeur de cette maison qui est différente chez chacun de nous et tout ça.
Ouais.
Donc, il y a vraiment ça chez Pirandello.
Il a un côté, il n'est pas voyeur, mais il est voyant.
Voyant, exactement. Il a vraiment quand il dit je vois, j'essaie de mettre cela. C'est pas juste regarder, c'est je vois, il a une voix au-delà des apparences.
Oui, mais surtout. Il est passionné aussi par les êtres humains, hein,
c'est
j'ai l'impression. Hein.
C'est ça, et c'est pas par mal, c'est pas mal
non,
ça.
Non.
Non, non, non.
En fait, il y a des gens qui s'émerveillent devant une fleur.
Oui, exactement.
Enfin, ils trouvent une fleur belle. Et je pense qu'il fait partie de ces gens qui s'émerveillent devant le spectacle des humains. Enfin, il ne les voit pas agir, mais quand il les voit circuler comme ça dans la rue ou qu'il perçoit un visage. Je pense
que c'est les grands romanciers. Ça.
Il est touché.
C'est là aussi c'est Dostoïevski.
Il est touché parce que ça lui parle. C'est comme un portraitiste aussi.
Ah ouais.
C'est un portraitiste parce
tout
que lui, c'est par les mots, mais ça doit être ça.
Oui, et c'est un voyant dans le sens où je me souviens un autre auteur qui suisse sur lequel j'avais travaillé, qui est décédé aujourd'hui, Georges Aldas. Il disait que les apparences, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas trompeuses.
Ah.
Les apparences sont très révélatrices, en fait. Alors après, on peut partir sur des préjugés, parce que c'est nous qui avons un appareil critique qui dit, mais si on regarde bien, on comprend, on voit, on peut aller en profondeur. Et c'est ce que les grands romanciers, je crois, sans jugement, sans porter, il y a pas de
les apparences, quelque part, c'est calqué aussi sur l'idée qu'on a du regard de l'autre aussi.
C'est ça. Et chez un Pirandello, par exemple, puisqu'on parle beaucoup de la fleur à bouche, mais la deuxième pièce est Circuler, justement,
oui.
Où c'est Valérie Aubert qui interprète le rôle. Elle interprète donc deux rôles. Une mère de famille qui vient de perdre son fils à la fin, Donna Anna, c'est un extrait de la vie que je t'ai donnée. Et Circuler, c'est un acte à part entière. Et alors, ce qui est étonnant,
Alors, il y a un petit extrait, pas très bon, mais tout à l'heure, on le passera.
Oui. Chez Pirandello, quand même, qui est un homme du 19e siècle, est né quand même dans les années 1860, qui va mourir juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il est, on peut dire, déterminé par une sociologie sicilienne, machiste, tout ce qu'on peut, une église très présente et tout ça. Mais c'est ce qui est extraordinaire chez cet homme, c'est qu'il réussit à se débarrasser de cette gang-là et le regard qu'il porte sur les femmes, notamment. Circuler, c'est une jeune femme qui enterre son père.
Ouais.
Tout ça n'est pas très gai, hein, mais qui enterre son père. Mais c'est une jeune femme qui a eu un enfant d'une liaison hors mariage et apparemment qui a basculé dans la prostitution.
Mmh.
Et le regard que porte Pirandello sur cette femme, c'est extraordinaire. Il parle même de son désir, comment elle est arrivée à ça. Il a une connaissance, une capacité sans aucun présupposé.
Mais il a une empathie.
Une empathie, mais du coup, il va au-delà de. Aujourd'hui, on parle beaucoup de féminisme, tout ça. Et c'est alors qu'il a rien.
Il devient cette femme quelque part.
Voilà, exactement.
Il parle comme s'il était cette femme.
C'est juste. Il y a
un peu de ça.
Ouais.
Oui, mais d'ailleurs, cette nouvelle, ce monologue.
Oui. Qui était nouvelle au départ, pièce, vous avez raison. Ouais. C'était nouvelle au départ.
Cette pièce, moi, je l'ai vécue comme quelque chose un peu de fantastique
oui.
Parce que elle se retrouve devant le catafalque.
C'est ça.
Enfin, devant le cadavre de son père, qui est sur un lit, on imagine qu'il est sur un lit.
Oui.
Et puis, alors, à un moment donné, justement, alors, il y a sa mère qui est muette, enfin,
oui.
Bon,
qui est pleine de
chagrin. Enfin, donc, on la voit simplement, bon, une silhouette, enfin, on imagine. Et, alors, donc, elle interpelle, je sais pas à qui elle s'adresse, mais elle gueule, quoi.
Elle interpelle son père.
C'est ça, et il est mort.
Il est mort. Elle règle ses comptes avec son père.
Et voilà, et à un moment donné, elle dit que...
Un ange passe.
à un moment donné, elle explique sa situation, c'est-à-dire qu'ils vont être expulsés.
Exactement, c'est pas circuler, c'est-à-dire qu'ils doivent circuler.
Et même, il y a cette image du cercueil du père qui se retrouve sur le trottoir.
C'est ça, qu'on va jeter sur la route.
Et la
route.
Également.
Ouais,
également.
La strada.
Et ça, c'est fort.
C'est très
ça,
fort.
C'est fort, parce que c'est pour montrer...
cette pauvreté profonde, cette misère.
On va même jeter... On la fout dehors. Et on va même jeter son père qui est mort.
Voilà. C'est ça, où il y a une tendresse aussi avec ses parents. Mais c'est pas du... Il n'y a pas de pathos du tout.
Non,
visuellement,
c'est fort.
Oui.
Visuellement, c'est fort. C'est parce qu'on a tous dans l'esprit l'image des gens qui sont expulsés.
Oui.
Et de dire qu'on pourrait aussi expulser les morts, parce que ça fait partie. Ils sont devenus les morts, c'est comme un meuble, on peut le jeter dehors aussi. Mais c'est fort de la part d'un auteur comme Pirandello, qui est un bourgeois. Il faut quand même dire ce qu'il est.
Oui,
c'est une origine bourgeoise.
Oui, oui.
Donc c'est fort qu'il tout à coup, il aille du côté des réprouvés, quoi, je veux dire.
C'est pour ça que Valérie Aubert a voulu ça, parce que souvent on enferme Pirandello dans une espèce de bourgeoisie italienne, etc. Ses pièces sont souvent dans un milieu bourgeois, et il est capable de tout à fait avoir ce regard sans aucune, sans pathos, sans surplomb. Il est de l'intérieur, il explore la vie de cette femme. Et c'est pour ça que Valérie Aubert a vraiment voulu faire entendre ce texte aussi. Ça donne un autre regard sur Pirandello.
Ouais, donc c'est vraiment passionnant. Mmh. Hein. Je recommande donc ces variations pirandelliennes qui se donnent jusqu'au 9 novembre.
Oui, ça vient vite maintenant.
Ça vient vite.
C'est à 21h.
Du mardi au samedi. Oui. Est-ce que il faut que les gens viennent, hein. Je pense qu'il doit y avoir des bonnes critiques quand même.
Oui, les gens qui viennent. Alors c'est vrai que vous avez raison, c'est que les gens sont un peu au départ
déconcertés.
Pas en voyant le spectacle, je dirais avant. Ils se disent, oh, c'est quoi, variation pirandellienne. C'est pas les 6 personnages en quête d'auteur ou je ne sais quoi. Mais en général, les avis qu'on a pu recueillir des spectateurs, ils ont reçu un choc, quelque chose, mais c'est un plaisir théâtral. Ils sont très heureux.
Moi, je trouve que ces variations pirandelliennes, c'est une bonne entrée chez Pirandello. Parce que c'est un personnage en quête d'auteur. J'aime beaucoup cette pièce.
Oui.
Mais elle est difficile.
Difficile,
elle est très difficile.
Oui, non, mais il va
et
très
là,
loin.
Commencer par ces pièces, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal pour essayer de comprendre... cet auteur.
Et c'est vrai que Stéphanie Tesson, qui dirige le théâtre de Poche, a vraiment pris ce risque de parce que c'est plus facile de monter des pièces avec des titres plus rassurants, plus repérables, et elle tient beaucoup. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de vraiment dit dans ce texte là
oui. Donc vous êtes une compagnie, la compagnie Partance,
le théâtre en partance.
Qui est situé où?
Alors, en fait, avec Valérie Aubert, nous nous sommes rencontrés pendant nos études théâtrales à Strasbourg.
Oui.
On a fait le TNS l'un et l'autre. Et puis, on a fait le choix, vous savez, c'est ce qui est la vocation de cette école, qui était la vocation au départ, c'était de faire du théâtre en région, bien avant le Covid. Donc, il y a une trentaine d'années, on s'est installé dans la Manche, du côté de Granville, dans le Cotentin.
Ah, d'accord.
Voilà. Et alors, on travaille là, mais comme l'indique le nom de la compagnie, on est beaucoup sur les routes, on est beaucoup en partance. Donc, on a un vrai travail de terrain. Et là, plus que... pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, en province, a fortiori, les gens sont là pour le théâtre. Pour eux, ils n'ont pas tous ces codes-là. Et c'est un divertissement, c'est un bon moment, sans trop se poser de questions, comme une espèce de prolongement de la télévision.
Oui.
Et c'est important de mener ce travail-là dans ces régions-là.
Pour, oui, tout à fait.
Voilà. Donc, on fait ce travail-là. Et puis après, on joue des spectacles très différents à travers la France.
Donc vous êtes de Strasbourg, alors un petit peu.
On a été formés à Strasbourg.
Vous êtes à Granville, alors.
Voilà. On est plutôt dans l'Ouest. Mais vous savez, la Comédie de l'Est, qui était l'ancêtre du Théâtre National de Strasbourg, était au départ dans l'Ouest, la Comédie de l'Ouest. Donc, comme quoi, il y a toujours ce mouvement entre l'Est et l'Ouest.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Donc, je redis où ça se passe.
Au Théâtre de Poche.
Théâtre de Poche, 76...
Boulevard Montparnasse.
Boulevard Montparnasse. Mise en scène, Valérie Aubert, avec Cédric Altadil.
Oui.
Valérie Aubert, qui fait la mise en scène.
Oui.
Et vous, Samir Siad.
Tout à fait.
Samir Siad. Est-ce que vous avez une musique italienne que vous aimeriez entendre? Parce que j'ai un petit enregistrement, mais il n'est pas bon. Vous savez, j'ai la musique qui précède la venue de...
Tchétché.
Non, de circuler.
Oui, c'est bien ça, c'est excellent.
Elle est bien cette musique, je ne sais pas si...
On l'a prise exprès pour montrer justement ce côté un
je
petit peu...
Je ne sais pas si Nicolas pourrait la trouver.
Oui, c'est
ça s'appelle comment?
Ah ça, oh là là, je suis désolé. C'est une chanson actuelle, hein. C'est
oui,
2024, c'est un des tubes italiens avec cette femme, cette italienne. Parce qu'on cherchait quelque chose justement qui ne soit pas dans le sens seulement de s'apesantir sur la tragédie, mais quelque chose d'un peu léger, de rythmé.
Oui, oui, oui.
Mais alors là, pour vous...
Ah, j'aimais bien.
Oui.
Alors moi, je l'ai enregistré, mais c'est trop nul comme truc. Donc je préférais Nicolas le trouve.
C'est pas facile. Si
remarquez, on peut passer l'extrait et puis
oui.
Après vous trouverez.
Oui. Il faut que j'appelle Cédric, qui s'est occupé du son. C'est beaucoup lui qui a beaucoup travaillé sur le son.
C'est pas grave.
Mais c'est bien d'entendre comme ça, un petit peu comme quelque chose, un témoignage lointain. Voilà, puis d'avoir entendu Valérie, c'est agréable.
Oui. Mais j'aimais bien parce qu'il y a ces petites incursions de musique, de chansons italiennes.
Oui, c'est ça. Qui pourraient être futiles, mais justement, c'est bon, le théâtre doit jouer tous ces codes-là. Voilà.
Ah bah oui, la mission se termine. Je vois Michel Tourte qui... D'accord. Mettez-moi votre mail et comme ça je vous enverrai le podcast de l'émission.
Merci beaucoup de votre accueil.
C'est moi, c'était très intéressant. C'est vrai que Pirandello,
C'est quelqu'un.
Oui.
Non, c'est très agréable. Alors, c'est exigeant de jouer tous les soirs, voire éreintant, parce qu'il nous oblige à partir un petit peu loin. Mais c'est en même temps très agréable d'avoir ça comme matière en tant que manière.
Ah, bah, c'est sûr, c'est sûr.
Voilà, j'espère que je suis lisible. C'est mon nom, tout simplement, sans rien, sans point, en petites lettres. Samir Siad, 50 comme le département de la Manche.
Attaché.
Arrobas, oui, tout ça attaché, hein, bien sûr. Et je mets le point com.
D'accord, merci. Je vous enverrai le postcard, la partie enregistrée de ce que.
On est en. Voilà. Bravo. C'est excellent.
Bon, ben, la semaine prochaine, hein, si tout va bien, nous avons comme invité. Caroline Darnay pour le spectacle Mayola qui est en ce moment au théâtre de l'Essaillon à Paris.
Voilà, puisqu'on avait parlé de Pirandello, je me suis permis de glisser quelques mesures de Nicola Piovani pour un film sorti en 1984, Chaos, conte sicilien, d'après Pirandello, des frères Taviani. Et à présent, sur l'antenne de Radio Libertaire, sauf erreur, eh bien, c'est Bulle Noire.